Aujourd'hui, c'est une conférence IENA. Les conférences IENA, vous le savez peut-être, ce sont des conférences qui sont organisées par l'École française d'Extrême-Orient en partenariat avec le musée Guimet. Et aujourd'hui, nous accueillons François Lachaud qui va nous parler de l'époque d'Edo. Ça tombe bien puisqu'hier, nous parlions déjà de l'époque d'Edo, cette période qui va de 1603 à 1867 où les shoguns ont pris le pouvoir et ont fermé le Japon. Donc la conférence de François Lachaud aujourd'hui, je vais d'abord vous dire qui est François Lachaud. Il est directeur des études à l'École française d'Extrême-Orient. Il enseigne aussi à l'École pratique des hautes études dans la section des sciences religieuses. Et il s'intéresse beaucoup au bouddhisme et aux apports du bouddhisme dans la littérature, justement à cette période d'Edo. Il a fait toute une étude sur l'écriture du fantastique dans le Japon prémoderne, et notamment il a étudié une œuvre célèbre de la première moitié du 19e siècle qui s'appelle La légende des huit chiens de Satomi Anansō. Voilà. Il est aussi l'auteur d'un ouvrage qu'on peut trouver qui s'appelle La jeune fille et la mort dans toutes les bonnes librairies. Donc je vais pas vous en dire beaucoup plus. Demain nous changerons d'époque puisque nous passerons à la période Meiji, c'est-à-dire la suite de l'époque d'Edo, là où le pouvoir impérial est rétabli. Et puis la semaine prochaine, il y aura encore des films sur l'histoire du Japon et une conférence du professeur Brigitte Koyama-Richard de l'université Musashi de Tokyo sur 1000 ans de manga. Je vous laisse tout de suite avec François Lachaud pour cette conférence sur la femme et le serpent.
Monsieur le directeur de l'École française Extrême-Orient, mesdames, messieurs, c'est pour moi un grand honneur et un non moins grand plaisir que de m'adresser à vous dans le cycle des conférences IENA consacré cette année au bouddhisme et à ses images. Je ne dois sans doute ma présence aujourd'hui qu'à l'indulgence de M. Jean-François Jarige, directeur du musée Guimet, et à celle de M. Franciscus Verhelen, directeur de l'École française d'Extrême-Orient. J'essaierai à grand-peine de me placer dans la suite érudite des intervenants de cette année, et puisqu'il est question de bouddhisme et d'iconographie, je voudrais aussi rendre hommage à mon regretté maître Bernard Franck, à qui nous devons les magnifiques galeries du Panthéon bouddhique, à deux pas de nous, et le catalogue de ses collections, qui est la pièce maîtresse de tout amateur d'iconographie bouddhique aujourd'hui. Je songerai aussi à l'un de ses augustes prédécesseurs en la matière, Paul Mus, dont les pages éclairantes sur les complexes relations entre la grande religion de salut asiatique et la production des images sont encore un insurpassé modèle de clarté et d'intuition. Je tiens également à dire qu'à plus d'un titre, le sujet dont je parlerai aujourd'hui entretient d'importants rapports avec la conférence de mon ami le professeur Steven Tizer de l'Université de Princeton, qui a prononcé dans cette série de conférences sur le bouddhisme et ses images une intervention ô combien éclairante sur les roues, Bhava Chakra, des vies et des morts dans le bouddhisme chinois et tibétain. Enfin, mon propos d'aujourd'hui renvoie aussi à mon précédent travail, La jeune fille et la mort, sur la représentation macabre du corps des femmes dans le bouddhisme japonais et ses antécédents chinois et indiens, notamment aux stratégies ascétiques consistant à conjurer l'élément féminin et ses pouvoirs de séduction par le truchement d'images, le soumettant à un regard anatomique, qui n'est pas sans entretenir de profonds rapports avec le thème des vanités si présent dans l'Europe moderne. Je devrais alterner entre le texte et l'image, alors vous me pardonnerez un peu, certaines images seront moins commentées que d'autres, et j'essaierai d'insister sur celles qui sont les plus marquantes. Je me tiendrai bien sûr à votre disposition pour les questions éventuelles à la fin de mon exposé. Donc là, c'est très rapidement pour rappeler qu'en gros, beaucoup d'anthropologues et d'ethnologues divisent les cultures humaines entre les cultures où le serpent est vénéré, est un objet de vénération, et où le serpent, donc l'ophiolatrie, et où le serpent est un objet de peur, donc l'ophiophobie. Le thème dont il m'incombe de parler aujourd'hui dessine un chapitre assez méconnu, mais très significatif de la manière dont le bouddhisme a contribué aux arts, aux lettres et plus largement à la civilisation du Japon prémoderne. Il constitue également un cas d'espèce pour tenter de comprendre les modes d'inculturation de cette religion dans le contexte extrême asiatique. En donnant pour titre principal à mon intervention de ce jour « La femme et le serpent, le bouddhisme et ses démons dans le Japon d'Edo », je mesure bien la difficulté de traiter un sujet aussi riche de manière aussi fragmentaire. Je ne mésestime pas non plus l'image que celui-ci pourra contribuer à donner du bouddhisme, a fortiori de sa variante japonaise, comme une religion misogyne et sans doute quelque peu contraire à ce que l'on en pourrait parfois percevoir en Occident, notamment dans certaines publications à l'usage du grand public. Il me faut rappeler, ab initio, que le bouddhisme fut à l'origine une doctrine à l'usage de personnes retirées du monde. Ce point est très important. Vivant dans une communauté de religieux, ayant choisi volontairement de se faire spectateur de la vie. et dont le premier devoir était de ne point participer aux sollicitations nombreuses du désir, fille de l'ignorance et de l'illusion, qui oblige l'individu humain à perpétuer l'espèce. La condamnation des forces de l'attraction charnelle, l'extinction de celle-ci par la pratique graduée ou par une commotion subite de tout l'être, le fameux Satori des écoles zen, sont les voies privilégiées pour parvenir à la délivrance. Des exercices d'anatomie moralisée, réduisant la femme à l'état de cadavre, furent prescrits comme thérapie aux clergés et dans une moindre mesure aux laïcs afin qu'ils se défissent de leurs tentations charnelles. Le libertin japonais Dessalé, qui se convertit en songeant à ce que l'obscur objet de son désir n'est qu'épouvante, rappelle les leçons de vanité de la peinture occidentale et l'exemple illustre de Miguel de Manara dans son discours de la vérité. Le bouddhisme cherche à démasquer les femmes, à leur ôter leur pouvoir de séduction. En pareille circonstance, la femme pouvait fréquemment être perçue et représentée comme un obstacle sur la réalisation de la voie et sur le long sentier lumineux menant à la libération. Je vais passer quelques images. On commencera par un proverbe japonais qui veut dire un voyou ou un diable en reconnaît un autre, Jano Michi wa Hebi, et où le serpent, on le voit, donc il y a une association où on se dit, en fait, entre brigands, on se comprend. J'ai traduit par vipère du Japon, pour le Japon, on le verra aussi, est un pays où il y a assez peu de serpents venimeux ou d'espèces très dangereuses. Il faudrait parler de crotale, parce que c'est en fait dans l'ordre des crotalidés, il y a une membrane sur ce type de vipère, donc le terme de vipère est assez inexact. Alors voilà, on a la belle, vous me pardonnerez, le caractère parfois un peu leste de certaines images, et là on n'en est qu'au début. Donc cette photo de Morimoto Sosuke, qui est un des grands photographes de l'après-guerre, nous montre un peu la beauté japonaise dans sa version canonique. Et voici ce que je viens d'évoquer, donc ce que l'on a appelé les neuf aspects, hein, qui sont les neuf aspects du corps en décomposition. C'est un rouleau en fait qui est du Kanjuin à Kyoto, et celui-ci donc nous montre la personne au moment du trépas, et on va voir un peu plus loin que finalement elle est réduite à l'état de squelette. Donc il y a neuf phases, hein, j'ai passé sur les phases les moins ragoûtantes. Et donc la beauté féminine est ainsi perçue ou méditée, en fait, comme un objet de terreur et d'horreur. Je voudrais montrer ce tableau qui s'appelle La Muerte y el Galán, que l'on trouve à l'hôpital de Séville de la Santa Caridad, et pour signaler l'analogie que je viens de montrer, où on voit très bien que derrière cette beauté féminine se cache le masque de la mort. Une autre remarque préliminaire s'impose, avant de rentrer un peu dans le vif du sujet. Le Japon est aujourd'hui le pays où sont conduites les recherches les plus savantes et les plus remarquables sur le bouddhisme. Recherches à l'aune desquelles une partie des nôtres, j'entends occidentale, fait parfois, il faut le reconnaître sans honte, pâle figure. C'est également le pays dont la population, se réclamant statistiquement du bouddhisme comme religion, est la plus importante. Mais c'est aussi celle où le clergé bouddhique s'est défait de manière presque systématique du célibat, où les moines sont entièrement sécularisés, où les charges monastiques se transmettent de père en fils. Quelle discrépance avec les fondements originels du bouddhisme. L'examen des représentations de la femme morte changée en serpent pour exercer sa vengeance, il faut bien distinguer celle-ci des représentations du serpent qui prend un aspect féminin, puisque j'ai plusieurs camarades sinologues dans la salle, on peut songer à la légende du serpent blanc en Chine, à l'époque d'Edo, est à ce titre fort éclairant. Le bouddhisme japonais, jusqu'à la fin du Moyen-Âge, s'avéra former un réservoir de doctrines et de modes de pensée, de conception du monde en même temps qu'une accumulation de textes donnant à cette religion un caractère systématique, tout en maintenant une ductilité à d'autres modes de pensée. L'introduction du néo-confucianisme en est un exemple. À l'époque d'Edo, le bouddhisme imprégna les diverses couches de la société et les arts et les lettres de son temps en dissimulant, à l'insu de son plein gré, si j'ose dire, son caractère de doctrine constituée. Plus que de sécularisation, il convient de parler d'inculturation générale. Les doctrines des causes et des effets, de la rétribution, voire de la transmigration, se mirent à toucher l'ensemble de la population sans que celle-ci ne possédât les connaissances nécessaires pour les relier à l'édifice savant et scripturaire lentement élaboré depuis l'Inde jusqu'au Japon. Pour comprendre la place du bouddhisme dans la société japonaise de cette époque, un détour par les arts dits populaires, ce que je me propose de faire aujourd'hui, et les plus éloignés de lui s'imposent. Les œuvres mineures, les minores, comme on disait en latin, sont ainsi particulièrement significatives dans cette perspective. Ce sont elles, en effet, qui, en même temps que les œuvres les mieux connues et célébrées, permettent de juger la prégnance de certains modes de pensée, de certaines formules de pathos, pour reprendre l'expression d'Abby Warburg, et les recherches de mon ami Georges Didier Huberman. Je vais commenter encore brièvement une des catégories dans laquelle on va voir à la fin de cet exposé la femme est représentée souvent. Là, je parle de l'époque moderne, puisqu'on est à l'époque de Meiji. Ce qu'on a traduit, je traduis par la femme venimeuse, Takahashi Oden, qui avait tué et massacré plusieurs de ses amants et maris successifs. Et considéré, on appelle le terme japonais dokushu, il faut savoir que le bouddhisme insiste sur la nature féminine qui secrète, il vaut mieux traduire par venin que par poison, puisque comme vous le savez, le poison peut s'administrer de l'extérieur, la nature féminine étant naturellement empoisonnée, on a cette image de la femme venimeuse, dont l'un des galants, on le voit sur cette image, va subir le pire des sorts dans quelques instants. Le cœur jaloux des femmes est aussi un des thèmes qui est lié évidemment au bouddhisme. Là, il s'agit d'une femme, donc j'insisterai un peu tout à l'heure sur cette manière de fonctionner de la société, donc l'épouse régulière qui, furieuse de la maîtresse de son mari qui était dans les quartiers des plaisirs tous les soirs et négligeait quelque peu les tâches conjugales, a décidé d'arracher une partie de l'anatomie féminine que je m'interdirai de décrire pour ne pas vous choquer plus. Et que l'on voit ici, donc c'est un journal, c'était ces journaux qui, au début de l'époque de Meiji, racontaient les faits sensationnels. Et le thème de l'article est « Le cœur jaloux des femmes ». J'en profite rapidement pour ceux d'entre vous qui connaissent un peu les caractères chinois. Vous noterez que les deux caractères pour exprimer la jalousie, « shitto » en japonais, sont composés de l'élément féminin, donc de la clé « femme » ou du radical « femme », suivant l'expression que l'on utilise. Et dans un cas, c'est une maladie subite, donc une maladie qui serait dans le cœur des femmes. Le deuxième caractère est composé de l'élément femme et du caractère pierre, où le ressentiment, la haine, l'obsession s'accumulent dans le cœur comme autant de pierres sur un tas de cailloux que l'on porterait en soi-même. Le bouddhisme, depuis ses origines, a accordé une importance tant dans les textes que dans l'iconographie au serpent et à sa forme divinisée, le naga, souvent figuré comme un être à tête d'homme et à corps ophidien. Vous en avez l'un des plus beaux exemples juste à l'entrée du musée Guimet, dont vous pourrez y jeter un œil dès que vous sortez. Le terme se traduisant souvent en chinois par long, lieu en japonais, signifiant dragon. Pour en revenir à ce qui sera le cœur de mon sujet aujourd'hui, et à ce qu'a évoqué admirablement le professeur Tizer, la symbolique des roues, des vies et des morts, le serpent y symbolise la colère, l'ire, si on osait le terme un peu classique, ou la haine. On peut même aller jusqu'à l'obsession dans certains textes. C'est l'un des trois poisons selon le bouddhisme, les deux autres étant l'ignorance figurée par un cochon ou un sanglier et le désir représenté par un coq ou un pigeon. Cette association symbolique entre le serpent et la haine, l'obsession, la colère et la vengeance fut, comme nous le verrons, au cœur des associations symboliques japonaises. J'ajouterai que, à qui n'a pas connu la présence toute de fascination étrange du serpent, ni moins encore de sa morsure fait l'expérience douloureuse et étonnante, il semble qu'une part de l'existence, part d'ombre et de révélation, lui demeure interdite. Il semble privé d'une trace indurée de l'être. Psychologue et psychanalyste, soucieux de nosologie d'interprétation, anthropologue de haute volée, historien des religions de grande réputation, zoologue de catégorie et historien d'art précieux, tous ces corps de métier du monde savant se sont penchés par intermittence voulue sur ce chapitre étonnant des relations symboliques, quotidienne, naturelle et surnaturelle, des relations entre l'homme et l'animal. Animal unique, dont les modes de locomotion, les changeants de couleurs, le souci du secret et du quant à soi ont fait naître sa réputation de cultiver le secret à la distance, dont les venins ont suscité les plus primitives terreurs et dont la pupille, semblable aux iris des appareils photos, semble se clore sur des réalités à jamais inconnaissables de nous. Je commencerai, en fait, pour ne pas vous faire perdre trop de temps, je passerai sur un peu la découverte et l'intérêt, pourquoi est-ce que je me suis intéressé à ce sujet-là. Et tout en commentant les images, je vais revenir sur le thème qui est au cœur de la communication d'aujourd'hui, « Femmes et fantômes, histoire d'obsession ». Avant de parler du thème particulier du spectre féminin exerçant sa vengeance sous la forme d'un serpent, un bref rappel sur ces fantômes féminins et sur leur lien avec l'histoire des religions et de l'art japonais n'est pas inutile. Pour ce faire, étant donné le contexte chronologique de notre bref exposé d'aujourd'hui, une remarque de Joris Karl Huysmans dans son volume de critique d'art « Certains » n'est pas inutile. Je cite Huysmans « Depuis lors, les Japonais sont les seuls qui tentèrent de procréer réellement des monstres. Certaines figures d'Okusai, des femmes surtout, semblables à des fées pendues dans la brume, avec des cheveux tombants en sol pleureur, sur des faces dissimulées et pâles, ont des aspects de fantômes, réalisent des apparitions de spectres. La représentation des spectres, yurei en japonais, dans les livres illustrés d'Edo, montre que le fantôme, l'apparition du mort, de celui qui revient, revenir est l'une des étymologies sino-japonaises du caractère lukwei en chinois, ki ou oni en japonais, est d'abord figuré comme une personne normale, en somme, impossible à distinguer des vivants. Et s'il faut absolument essayer d'opérer une démarcation entre les habitants du séjour obscur et ceux du monde quotidien, celle-ci s'opère parfois en utilisant un trait plus fin qui donne au fantôme une apparence graphique différente et fait de lui un être en pointillé. Dans un second temps, je m'excuse un peu de ce long rappel, même si en la matière la chronologie doit être utilisée avec précaution, une terreur des morts, un effroi à l'idée de leur retour et des formes terribles que celui-ci ne manque pas de susciter, donnèrent naissance à une imagerie plus grotesque. Les spectres furent représentés dans des scènes de meurtre et de massacre, ajoutant une dimension de cruauté à leur figuration. Celle-ci, sous les dehors de la folie, un autre thème central au genre, intégra ensuite un grand nombre de traits, comme les cheveux en désordre et les yeux révulsés que nous allons voir, qui tendaient à rapprocher le spectre de l'animalité inquiétante. On le sait, c'est un des attributs féminins dans le discours bouddhique. De fantôme, celui-ci devient peu à peu un monstre. La hantise, née de la jalousie, je viens de l'évoquer, shitto, le terme est très fort, du ressentiment, de la haine, urami en japonais, et de l'obsession, shunen, est dans la majorité des cas considérée comme l'un des attributs de la condition féminine. L'époque d'Edo est précisément celle où se fixe le canon iconographique du spectre sans jambes, celui que Toriyama Sekien, plusieurs illustrations vont apparaître dans la suite de mon exposé, 1712-1788, qui fut l'iconologue du surnaturel dans les arts d'Edo, représente flottant au-dessus des tombes dans son album illustré des 100 démons. Là, je vous montre une image, un récit sur lequel je vais revenir un tout petit peu plus tard, qui raconte la possession d'une femme par la possession d'une femme qui n'a rien fait par l'ancienne femme que son mari a assassinée. Souvent, dans ces cas au Japon, on pourrait penser que le mari est un simple criminel, mais il a souvent à subir une femme un peu autoritaire, ou on dirait un peu urusai, qui en plus ajoute des traits de laideur physique qui, sans excuser son geste, peuvent néanmoins en fait expliquer la fréquence de ce genre de représentation. J'ajoute qu'ici, en fait, il faut ajouter que les grandes catégories de fantômes et de spectres comprennent les âmes courroucées des morts de l'époque ancienne et de la littérature bouddhique médiévale. Elles incluent aussi le fait que les âmes peuvent exercer leur vengeance, même vivantes, et elles donnent également naissance aux spectres terribles et vengeurs, rendus populaires par la littérature d'Edo et le kabuki. Je vais y revenir. Plusieurs des héroïnes les plus célèbres du kabuki sont en fait des spectres. Le premier sens du vocable... Bizarrement, yurei désignait l'âme d'un mort, celui qui vivait dans le monde obscur et pouvait se montrer aux vivants. Le terme était synonyme de shōryō, terme bouddhique qui désigne l'âme des défunts, et de shiryō, l'âme des défunts pouvant causer des malédictions aux vivants. Se fondant sur les croyances ayant trait à la malmort et au courroux de ses victimes sur les vivants, les spectres furent depuis toujours des créatures suscitant l'effroi et la crainte. Ce n'est qu'à l'époque d'Edo que leur image se fixa peu à peu pour prendre celle de la personne émergeant d'un cercueil dont on ne distingue pas les traits et qui, généralement de sexe féminin, les cheveux en bataille et les mains jointes devant elle, saisit les vivants d'horreur et en tire cruelle vengeance. La fusion d'une tradition grotesque du surnaturel hérité de l'époque médiévale et de type iconographique correspondant à la prévalence du ressentiment féminin dans la littérature et à ses conséquences, la femme devint une figure spectrale mue par la vengeance et dont les traits se firent monstrueux, donna aux illustrations des recueils d'histoires étranges la possibilité d'une grande variété de modes de figuration. La peur et l'effroi revenaient au centre de l'iconographie. Ces formes terribles fusionnèrent dans la figure de la femme démon, Kijo, qui prit les traits à la fois du spectre et les traits animaux et grotesques du monstre. Sa représentation iconographique correspondit ainsi à la façon dont les écrivains la décrivaient dans leurs textes. Le rôle inquiétant de la sensibilité féminine, prompte selon le discours dominant à succomber aux passions et ainsi à devenir une figure régressive et animale, rejoint certains des discours sur le féminin présents depuis l'époque ancienne et valorisés dans la littérature bouddhique. J'en viens maintenant aux héroïnes spectrales qui vont faire l'ensemble, la première partie du corps des illustrations que je vous montre aujourd'hui, qui sont trois femmes connues sous le nom de Kasane, Okiku et Oiwa. Il vaudrait mieux dire Oiwa-san, j'expliquerai pourquoi tout à l'heure. Cassané est noyé dans une rivière. C'est la femme qui possède. Vous voyez une scène de possession ici. Elle est noyée dans une rivière et elle finit par être délivrée et conduite à récipiscence par un moine célèbre de l'école de la Terre pure, le saint homme Yuten. Fille d'un paysan du village de Hanyu, dans la province de Shimosa, elle était consumée par la jalousie, tant et si bien que son mari décida de la noyer dans la rivière Kinu. Devenue spectre, elle se vengea de lui en le... Pardon. Elle se vengea de lui en possédant et en faisant mourir les 5 femmes qu'il prit par la suite. Ça ne l'avait donc pas arrêté. Son nom, qui signifie en japonais « Kasane », superposition, redoublement, désigne très bien, en fait, la prise de possession du corps des autres femmes pour les faire mourir atrocement. L'histoire de cette femme nous est connue par l'un des textes les plus étranges de la littérature d'Edo, le Shiryo Gedatsu Monogatari Kikigaki, c'est une illustration du texte que vous avez, de 1690. Le texte, dont la puissance provient de sa nature édifiante et de sa volonté de se borner à une relation stricte des faits, sans littérariser le texte ou sans lui donner en fait une rhétorique qui aurait tendance à le mettre dans un beau japonais littéraire, pourrait se rapporter au premier rapport européen sur le vampirisme. L'imaginaire populaire s'empara de cette source, que l'on retrouva vite adaptée en littérature par Kyoktei Bakin, donc l'un des grands écrivains du XIXe siècle japonais, sous forme encore aujourd'hui de rakugo, de récit oral, chez Sanyutei Ensho, à l'époque de Meiji, et au kabuki, chez Tsuruya Namboku. La possession et la hantise, surgies des profondeurs de l'inconscient religieux du monde rural, prirent forme et constituèrent l'une des sources privilégiées de l'évolution de l'image du revenant à Edo. Okiku, donc là il y a une légère inversion, là il s'agit d'Oiwa, Okiku est jeté dans un puits pour avoir brisé une précieuse assiette d'une série en comportant 10 et revient d'entre les morts pour les compter. Elle est elle aussi une victime du pouvoir arbitraire des mâles, elle revint d'ailleurs au théâtre sous de multiples formes. Les fantômes féminins ne furent pas que des sources de divertissement et d'inspiration pour les artistes. En 1825, lorsque Tsuruya Namboku IV, dit Namboku le Grand, fit représenter sa pièce en 5 actes, Yosuya Kaidan, il porta à son point d'incandescence son esthétique d'un théâtre hanté par les forces du mal, mais celui-ci est un mal éminemment social. L'héroïne spectrale, Oiwa, que vous avez ici, incarne la répression dont étaient victimes les femmes dans le monde corseté d'alors. Son visage déformé, vous voyez qu'il lui manque le bas du visage, et donc ça correspond assez bien à la forme de la lanterne un peu crevée, est déformé par un poison qui lui a corrodé la peau. Le sadisme et la cruauté dont elle est victime la transforment en spectre implacable. Elle est clouée à une planche avec une autre victime, Kobotoke Kohei, à qui l'on a précédemment cassé tous les doigts. La scène, chez Namboku, devient un espace de contestation des valeurs. Le délire sadique et l'invention, ou l'inversion scénique, se mêlent pour donner une vision au noir du monde. Aujourd'hui encore, après les lanternes démons, là on a une illustration de Hokusai dans cette série inachevée en fait des 100 récits, les lanternes démons dans lesquelles elle s'incarna dans bien des estampes, son esprit semble frapper les acteurs qui jouent la pièce. En effet, le fantôme d'Oiwa, lorsqu'on représente Yotsuya Kaidan, généralement fait en sorte qu'un acteur meure, se casse une jambe ou soit victime d'un grave accident. Ça rappelle bien sûr la fameuse malédiction de Macbeth, et qui est vouée là aussi, puisque quand on monte la pièce, ça connaît des accidents sur le plateau. Ceux d'entre vous qui sont cinéphiles ou amateurs de théâtre se souviennent de Laurence Olivier qui aveugle Keith Mitchell lors de la production en 1955. C'est dans les rushs, en fait, si vous voyez le Macbeth, Laurence Olivier, on voit cette scène où il pense lui jeter de l'eau au visage et en fait il lui jette du vitriol, qui apparemment n'était pas sur le plateau. Le destin de ces 3 femmes spectrales, iconographiques, scéniques et littéraires, montre comment le fantastique et la culture bouddhique populaire furent prompts à saisir les lignes de fracture de la société. Les femmes devaient se contrôler, se résigner et tenter de ne pas exprimer leur courroux. Leur cœur était perverti en ces années de déclin. Namboku ne faisait qu'inverser la logique moralisante, édifiante et pratique de textes comme le Honna Chōhoki, trésor précieux à l'usage des femmes, de 1692, ou le Honna Daigaku, la grande étude à l'usage des femmes, de l'ère Kyoho, 1716-1736. Ces textes étaient des textes de morale, on pourrait dire conjugale, et qui étaient aussi des textes qui expliquaient aux femmes quels textes elles pouvaient lire, quelles études elles pouvaient faire, de quelle manière se comporter au foyer, comment s'adapter à un mari jaloux, comment résister lorsque, par exemple, le mari a tendance à dépenser la fortune familiale, comment faire en sorte, lorsqu'on a un mari qui triche aux cartes, de s'arranger pour que celui-ci, en fait, corrige son vice. On le voit, le fantastique a toujours un lien, en tout cas, pas seulement au Japon, avec le contexte social. Il donne un corps aux désirs, aux frustrations et aux peurs. Vous voyez ici Okiku, donc qui elle va chercher les assiettes que vous voyez autour de son cou et de sa longue chevelure. C'est encore une illustration de Hokusai. Elle sort d'un puits et on voit déjà cette forme ophidienne ou cette forme de serpent en la voyant émerger du puits. Pour penser à l'évocation que je viens de citer de Huysmans, de ces spectres japonais, toutes ces illustrations, vous verrez qu'énormément d'illustrations sont prises dans des livres populaires dans lesquels on mélange habilement les registres du chinois classique, du chinois vernaculaire et du japonais. Ces livres sont connus sous le nom de Yomihon, livres illustrés, ou plus exactement, livres à lire. Onnamoji voulant dire d'ailleurs que le titre de l'ouvrage signalant que c'est un ouvrage qui est censé être lu par des femmes. Donc vous voyez l'image d'un spectre. Vous voyez ensuite trois femmes ensuite qui sont mortes et qui ont d'abord été conduites à avorter et donc en fait qui ensuite reviennent hanter le mari. Et donc il y a une femme et sans doute les deux maîtresses qui reviennent hanter le mari qui les a forcées à subir cet avortement. Ensuite, vous voyez que le retour finalement de la femme avec laquelle on a vécu pendant longtemps et qui, au moyen d'un crime, a été rayée de la carte, ou du moins rayée de la carte du foyer, a tendance à revenir sous des aspects sans doute moins plaisants que ce qu'elle avait vivant. Et donc là, on a une scène où le mari se retrouve confronté de l'autre côté de la moustiquaire à son ex-épouse qui, semble-t-il, vient lui réclamer des comptes. Vous notez que cette histoire est l'adaptation que Bakin a faite du récit de Kasane que j'ai évoqué tout à l'heure. Alors on voit que le démon féminin, lorsqu'il s'émancipe totalement, si vous me pardonnez cette image, a tendance à devenir un être presque cosmique qui manipule la foudre et les orages. On voit là encore la grande qualité des illustrations. Hokusai a été un très grand illustrateur dans ce genre du Yomihon et qui là est devenu un espèce de démon cosmique, presque un dieu du vent et de la foudre qui projette évidemment son rayon. On est presque dans la science-fiction, dans les mangas, dont vous parlera sans doute Brigitte Koyama-Richard. Et on voit l'extrême modernité du graphisme. Donc, c'est comme émane de sa main un éclair qui vient foudroyer le mari inconstant. Je montre quelques images qui sont tirées du cinéma japonais récent et qui, donc, là, cette fois-ci, en fait, parleront à tout le monde. Alors, on regardera l'œil, évidemment, et la chevelure. Vous notez, ça c'est l'affiche effectivement du remake américain, vous notez que c'est la définition parfaite, puisque cette héroïne féminine qui est devenue un fantôme, c'est la bonne définition du mot jalousie et en même temps du mot urami. Ça, mais en fait, ça serait elle, elle ne pardonne jamais, elle n'oublie jamais. Alors ensuite, vous avez encore une illustration, vous voyez que l'image de Kasane que l'on a vue chez Hokusai est reprise, puisque là il s'agit encore du spectre féminin qui émerge du puits. Ici, je passe rapidement sur cette image de 1687, une collection de contes extraordinaires où il n'y a pas du tout d'histoire de fantôme. Il s'agit simplement d'un pieux moine que vous voyez à l'étage d'en dessous dans une pagode et qui découvre qu'en haut, il y a une femme crucifiée. Donc le christianisme avait laissé sans doute quelque influence, de manière qui aussi quelque part entre le crucifix et la croix de Lorraine, si on en juge à l'illustration, devant laquelle il y a la tête de son galant ou de son Jules et le mari qui, tous les soirs, vient lui administrer une correction. Et le moine, donc, effectivement, délivre cette jante dame et celle-ci, pour le remercier, au moment où il quitte le village et où la famille remercie le moine, lui donne un paquet en lui disant « c'est un cadeau pour vous ». Et le moine découvre à l'odeur qui émane du paquet qu'il s'agit de la tête de son amant que vous trouvez, en fait, sur l'illustration. Il n'y a donc rien de surnaturel dans cette histoire, simplement le commentateur de ce recueil d'histoires de fantômes dit « tel est là le cœur des femmes, on a beau être un moine extrêmement saint et éminent, on a beau prier pour leur salut, au fond, il n'y a rien à faire ». Vous notez que l'image du serpent, c'est un vieux blues de Skip James de 1932 qui s'appelle « Le diable est parti avec ma femme ». Vous notez qu'ici, effectivement, dans le contexte occidental, le serpent ou la femme non vertueuse qui est sur son lit est assaillie à la fois par la mort et par cette figure du serpent. Alors c'est dans un tout autre contexte, mais on voit que l'image ophidienne, là c'est bien sûr le serpent biblique, est présente. C'est juste pour un petit contraste et une sorte de pause avant la suite de l'exposé. Je repasse sur ces associations occidentales très rapidement, et qui sont bien connus de vous tous par rapport à la femme et au serpent. On a la Méduse de Rubens, évidemment. On a de Franz von Stuck ce tableau appelé Sünde, le péché ou la faute, et où on voit là encore la femme avec, effectivement, le serpent autour du cou. Là, cette fois-ci, c'est encore les Nix, hein, donc, qui vivent dans les rivières, qu'on a chez Gustav Klimt. Et là encore, on voit la chevelure ophidienne et ces femmes qui attirent au fond de l'eau. Généralement, on a peu de chances de remonter. On revoit encore très rapidement cette illustration de Munch, cette fois-ci, le vampire, où là encore, la chevelure ophidienne enveloppe le galant un peu effondré. Il faudrait, quand on est précis en histoire de l'art, savoir que ce n'est pas le titre que Munch voulait donner à cette composition, mais c'est le titre que les historiens d'art ont retenu. Enfin, ce bijou qui a appartenu à la divine Sarah Bernhardt, qu'elle portait comme ornement de soirée et qui est conservé au musée Carlos Gulbenkian à Lisbonne. Donc là encore, la femme serpent, à l'image de la femme serpent, on peut penser aussi à Jeanne Avril, telle qu'elle est illustrée par Toulouse-Lautrec, qui est un thème très éloquent. Je vais maintenant essayer d'expliquer comment on en est arrivé à ce processus. Un changement important dans la conception que se faisaient les Japonais de l'au-delà est intervenu en même temps qu'un changement social de grande amplitude dans la relation entre les sexes à l'époque d'Edo. Il n'est pas inutile de mentionner ces deux évolutions. Commençons par la seconde. Les relations maritales ou conjugales dans le Japon ancien se fondaient sur la relation entre la première épouse, Konami, qui n'est pas qu'une marque de jeux vidéo, et les autres épouses en second, en troisième, le chiffre pouvait parfois s'élever bien au-delà, appelée Uanari, donc la seconde femme. Jalousies et vengeances s'exerçaient le plus souvent entre femmes et principalement à l'endroit des autres épouses de la part de la première. C'était aussi des conflits d'intérêts entre les clans aristocratiques. La fin de ce système, en associant l'épouse unique à une famille unique et en lui imposant les devoirs de procréer un héritier, mâle de préférence, mirent celle-ci dans une situation précaire, courant toujours le risque d'être répudiée ou de se voir supplantée par une maîtresse plus jeune et partant plus fertile. L'obsession et la jalousie, les tourments infligés aux rivales et aux marivolages, ou tout simplement malheureux, prirent une importance que traduisent la plupart des grands récits de fiction de l'époque. C'est donc le premier changement, c'est un changement social. Le second changement notable relève de l'histoire des mentalités religieuses. Et c'est là où je reviendrai un peu à ce qu'avait exposé le professeur Theiser. Tandis que jusqu'à la fin du Moyen-Âge, le modèle cosmologique des six destinées, hein, vous vous souvenez donc ces six voies dans lesquelles les êtres transmigrent, ça peut même être cinq hein, à l'origine, dans lesquels les êtres se pouvaient réincarner, étaient dominants dans les textes et les images japonais au seuil de l'époque d'Edo et pendant toute la durée de celle-ci. Mais un modèle concurrent s'est substitué à ce premier modèle qui a continué à exister et est devenu beaucoup plus populaire. C'est le jugement des dix rois des enfers et la représentation d'enfer particulier réservée aux femmes, qui désormais en fait teint le haut du pavé et s'imposa en fait dans les ouvrages, notamment de fiction et dans le bouddhisme populaire dont je parle aujourd'hui. Notamment dans un genre d'ouvrage encore peu étudié qui s'appelle Kangebon, qui était un peu les encyclopédies domestiques, hein, c'est un peu le dictionnaire médical qu'on a à la maison, donc vous aviez le dictionnaire bouddhique qui vous expliquait comment comprendre cette religion. Et on regarde au passage des enfers, on a donc la rivière des trois guets, Sanzu no Kawa, qui donne accès aux infernales régions, l'enfer de l'étang de sang, Chinoike Jigoku, hein, il faut savoir que ces enfers apparaissent dans des textes apocryphes bouddhiques, dans lesquels théoriquement toutes les femmes sont censées tomber puisqu'elles sont affligées de la malédiction congénitale du sang menstruel, l'enfer des femmes stériles, donc on voit bien Umazume Jigoku, donc qui recoupe un peu les données sociales que je viens d'évoquer, enfer dit aussi des femmes de pierre, enfin l'enfer pour les luxurieux dans lequel les maris bigames, s'appelle Futame Jigoku en japonais, se voyaient condamnés à souffrir 1000 morts, asphyxiés par deux serpents portant le visage des femmes qu'ils avaient bafouées. La prédication infernale devint ainsi le lieu d'une démonisation du féminin et recoupa les doctrines néo-confucianistes, il faut là aussi comprendre que le bouddhisme n'était pas systématiquement en opposition avec elle, qui insistait sur les vertus domestiques et sur la nécessaire conjuration des forces de la jalousie, habitant dans les recels les plus profonds du cœur des femmes et qui, faute d'être contenues, libérait dans la société de véritables poisons, ceux de la vengeance, de l'obsession, de la jalousie et du crime, dont l'une des formes privilégiées était précisément celle du serpent. J'espère ainsi vous avoir fait percevoir qu'il y a un lien entre les modes de représentation de la femme au milieu des enfers dans le bouddhisme populaire, lointainement hérité de la tradition scripturaire, et sa diffusion sous forme littéraire dans les recueils d'anecdotes. Son association avec le serpent est aussi au Japon connue par la très célèbre pièce de Nō, Dōjō-ji, on va revenir sur les masques de Nō dans quelques instants, et qui non seulement est une pièce et une œuvre effectivement dramatique, mais assume ou a permis de donner un socle très religieux très solide au discours sur le féminin. La légende de Kiyohime, devenu serpent par amour d'un moine qui lui avait menti pour échapper à ses avances, inspira un très grand nombre de récits apparentés à cet archétype. Ces récits, on commence à en trouver des traces dès le Xe siècle. Les masques de Nau, nous allons le voir, sont d'ailleurs une illustration en trois dimensions du processus qui conduit la femme à se transformer en serpent. Le premier étage, si j'ose dire, ou la première étape, c'est Namanari. Donc elle est en train de devenir un serpent. Vous notez les cornes. Je vous rappelle que dans les cérémonies de mariage au Japon traditionnel, la femme porte un ornement autour de la tête qui s'appelle Tsunokakushi, donc sans doute, ce qui veut dire ce qui sert à cacher les cornes, et donc sans doute à masquer ou à gommer quelque peu pour l'impétrant qui est son mari, sa nature qui peut parfois être terrifiante. Donc on voit ici la première étape, le Namanari, donc en train de devenir serpent. Vous avez un gros plan. Donc sur le Hanya, alors c'est amusant puisque c'est Hanya no Mura à l'origine, sans doute l'origine du mot, donc c'est-à-dire c'est un toponyme qui aurait donné ce nom, mais en même temps le mot est un décalque du sanskrit prajna, donc qui serait la sagesse ou la sapience, mais qui désigne cette deuxième étape de la transformation. Les cornes sont un peu plus grandes, le sourire un peu plus sardonique et l'aspect un peu plus terrifiant. C'est donc la deuxième étape de la transformation en serpent que vous voyez dans les masques de Nau. La troisième, c'est donc Shinja, le véritable serpent, hein, le serpent réel, où vous notez que les cornes se sont encore agrandies et la bouche a pris désormais un aspect carrément abominable et la transformation en serpent est accomplie. On utilise aussi, plutôt que ce terme serpent réel, le terme Honnari, c'est-à-dire en fait la forme achevée, la forme fondamentale donc de la femme transformée en serpent. Vous notez là encore la présence des cornes et le visage terrifiant. Avant que de se transformer en serpent, il faut savoir que l'héroïne dans les pièces de Nau porte souvent un masque qui s'appelle Yaseonna, la femme amaigrie, qui n'est pas l'anorexique qu'on voit sur les podiums de mode aujourd'hui, mais bien au contraire, la personne qui en fait est en train de maigrir, de se consumer de jalousie, qui a le cœur empoisonné, comme je le disais tout à l'heure, et qui donc peu à peu sera vouée à se transformer en démon. Voilà une illustration qui est prise cette fois-ci dans les mangas d'aujourd'hui. Alors vous notez cette jeune japonaise séduisante qui est sans doute à la sortie d'une école ou d'une université. Et la légende de cette image que je vous ai mise au-dessus est un adage, un proverbe bouddhique qui dit « Au dehors, c'est un bodhisattva, c'est un être à qui on voudrait vouer son âme, son corps et plus si affinité ». Et en même temps, un être de nature à nous procurer le salut, et en son cœur, c'est un démon. C'est un proverbe qu'on retrouve là aussi, bien évidemment, en Chine. Donc vous voyez le masque de Nau, le masque de serpent qui est porté par cette jeune fille, semble indiquer la nature double, pas seulement perfide, mais aussi la dangerosité inhérente en fait, au contact avec ce genre de personnes. Toriyama Sekien, dont je parlais tout à l'heure au XVIIIe siècle, donc qui a été l'un des illustrateurs japonais qui a fait des catalogues systématiques des créatures surnaturelles japonaises, je m'excuse de n'avoir pas indiqué la traduction sur cette image, nous donne ici en fait la cloche du dojoji. Le moine donc se réfugie sous cette cloche et espère échapper aux ardeurs, c'est le cas de le dire, puisque le serpent féminin fondra la cloche par sa colère, et donc se réfugie sous la cloche, tandis que la créature que vous voyez mi-femme, mi-serpent, est en train de le poursuivre. Elle, bien sûr, cette femme est déjà morte, et donc elle est en train de vouloir tuer le moine, tout simplement parce que celui-ci ne voulait avoir aucune aventure avec elle. Dans le bouddhisme populaire, je m'excuse de la mauvaise qualité de cette illustration, aussi utiliserai-je le pointeur, on a ce type de mandala de Kumano, de l'inspection mentale des dix mondes. Les dix mondes sont donc, notamment, on comprenne toutes les voies, bien sûr, dans lesquelles le sujet peut connaître la transmigration. Au centre, vous pouvez presque reconnaître le caractère cœur, hein, donc qui veut dire qu'en fait tout ceci procède de l'inspection mentale. Et vous noterez aussi en haut dans le cercle, hein, qui serait presque en fait le nimbe du registre supérieur, les échelles de la vie, hein, la scala vitae, comme on a en fait en Europe à partir de la Renaissance, où vous voyez la personne, donc le jeune homme et la jeune fille, depuis la naissance jusqu'à la mort, passent par une porte d'entrée dans la vie pour descendre en vieillard chenu, et ensuite vers la seconde porte qui leur indique la sortie, c'est-à-dire la mort. Donc, on le voit très mal sur cette image, mais on retrouve dans ce type de dessin, dans ce type de représentation, de peinture religieuse, l'enfer pour les maris bigames et volages dont je vous parlais, et dont vous avez ici une illustration. Vous voyez bien donc, que ces pauvres damnés, faut-il les plaindre d'ailleurs, qui se retrouvent entourés par deux serpents, chacun ayant le visage d'une des femmes entre lesquelles leur cœur n'avait pas su trancher. J'y reviendrai tout à l'heure, c'est en voyant ce genre d'image que Dazai Osamu a fait son éducation sentimentale. On lui montrait des images des enfers et les tourments notamment auxquels étaient promis les personnes qui étaient volages. De là à savoir si Dazai a appliqué à la lettre ses enseignements, ceux d'entre vous qui ont lu ses romans ou qui connaissent sa vie savent qu'il a tenté plusieurs fois de se suicider de manière amoureuse. Généralement, c'est plutôt ses amantes ou ses femmes qui ont réussi et lui a toujours survécu, sauf la dernière fois. On le voit donc ainsi, morte ou vivante, la forme ophidienne donne à la femme le moyen d'assouvir sa soif de vengeance. Il ne faut donc pas perdre de vue que c'est aussi une manière d'exprimer socialement des peurs, mais aussi de montrer que la femme essaie d'asseoir son rôle social et de rétablir les normes. Ces conceptions religieuses influencèrent les femmes elles-mêmes, y compris dans les couches les moins lettrées de la population, par la prédication bouddhique. Les grands moines du passé et du présent y apparaissaient désormais comme des faiseurs de miracles. Et à l'époque d'Edo, on assiste à ce changement très important, les plus prestigieux pouvoirs de ces moines étaient ceux de l'exorciste. Ces sermons et ces leçons sur la conduite de la vie et des choses du sexe étaient même accomplis par des femmes connues sous le nom de Kumano Bikuni, religieuses de Kumano. L'intériorisation des catégories de domination chez les femmes, leur mise en scène par d'autres femmes, furent ainsi aux origines de la popularité du thème de la femme serpente, la femme ophidienne. Sa nature métamorphique l'avouant à se transformer en serpent. Pour ce faire, tout en reprenant un pan important de la tradition religieuse bouddhique et des cultes locaux, il fallut opérer une relecture allégorique du passé dans laquelle seuls les éléments négatifs de ces deux catégories, femmes et serpents, furent retenus. Ce bouddhisme, expliqué par les terreurs de l'outre-tombe, fit particulièrement recette grâce aux nouvelles techniques d'impression et de gravure qui permirent la diffusion de textes et d'images de grande qualité dans lesquels les lecteurs et lectrices pouvaient retrouver sous forme de fiction et d'illustration les terreurs de la vengeance des femmes et les rassurantes vertus des moines thaumaturges. L'usage des enfers comme instrument de pédagogie se poursuivit jusqu'au seuil de l'époque moderne. Un écrivain comme Dazai Osamu, que je viens de citer et qui meurt en 1948, mentionne dans son récit autobiographique Tsugaru combien son enfance fut marquée par ce genre d'images. C'est un peu à la manière dont Stephen Dedalus, qui est en fait une sorte de décalque de James Joyce lui-même, est terrifié par les sermons de ses maîtres dans le portrait de l'artiste en jeune homme de 1916. On sait que par ailleurs les descriptions des enfers de Joyce sont prises presque directement avec une adaptation géniale dans les textes du grand dominicain espagnol Luis de Granada, qui lui est du XVIe siècle. Donc on voit là encore la transformation serpent. Alors là, c'est l'épisode très connu du chant 25 hein, de l'enfer, de l'inferno, et illustré par Gustave Doré. Et obsessions et haines, donc voilà un tableau shunen et difficile à traduire. C'est un mot qui indique l'obsession, un shuneshi. On a même le mot qualificatif qui indique l'obsession, la haine obsessive. Et vous noterez que là, on a une plaque donc, qui marque une défunte et que celle-ci, en fait, revient sous la forme d'un serpent. Et si le pointeur me permet cette difficile manipulation, vous noterez qu'ici, pour ceux d'entre vous qui lisent, on donne un nom posthume à la personne, donc à la défunte, qui veut dire celle qui n'a jamais prononcé le moindre mensonge, celle qui n'a jamais menti. Donc celle qui n'a jamais menti, mais qui a quand même été bafouée, se réincarne ou prend la forme d'un serpent pour exercer sa vengeance. C'est là aussi de la même série de Hokusai que nous avons vu tout à l'heure. Et c'est une des images les plus parlantes. On verra aussi, dans ce type d'association entre la femme et le serpent, plusieurs autres modèles. La ceinture du kimono qui devient un serpent, c'est ce qu'on appelle chatai, donc la ceinture serpent. et que l'on voit passer au-dessus d'un paravent, sans doute là encore, pour aller exercer une vengeance sur le mari qui, de l'autre côté de la cloison, à n'en pas douter, doit se livrer à des activités illicites. On a aussi le spectre voyeur, Byobu Nozoki. Nozoki, c'est un voyeur aussi en japonais. Nozoki Sumi, voulant dire le voyeurisme. Donc là, on a le spectre féminin qui, vous le voyez, donc n'est pas entièrement cette fois-ci dépourvu de jambes, mais qui a bien cette forme spectrale et le S, la sinuosité du serpent, et qui jette un œil de l'autre côté du paravent. Alors, le texte ne précise pas si ensuite, effectivement, le mari se trouve mort, mais il est sans doute pour le moins mort de peur de cette apparition de l'autre côté. Ici, c'est encore la ceinture d'Oiwa. Donc cette image est intéressante. On a vu Oiwa avec son visage corrodé par l'acide et revenir comme une lanterne à moitié déformée. Ici, c'est plutôt une scène assez touchante. Elle allaite son enfant et elle est dans une scène, on pourrait presque dire, une scène de foyer assez normale. Le seul élément qui semble préfigurer le surnaturel, vous retrouvez cette ceinture ou ce pan en fait de kimono qui, pendant sur l'estampe, prend l'apparence d'un serpent qui semble dévisager Oiwa et qui n'est pas sans rappeler, pour ceux d'entre vous qui aiment les films de Disney, le fameux serpent qui apparaît dans le Livre de la Jungle. Vous noterez le visage de la ceinture, si j'ose dire. On note aussi dans les vêtements, puisque là encore, c'est une présentation qui essaie d'insister sur ces rapports visuels, un vêtement typique qui s'appelle urokogata, en japonais, le vêtement d'écaille, qui est porté dans le no, mais aussi dans le kabuki. On le voit un peu sur cette image. C'est donc Kiyohime, donc l'héroïne du Dojoji, dont je viens de parler tout à l'heure, qui traverse une rivière. Et en traversant cette rivière, la Hidaka, de l'autre côté aura pris l'apparence d'un serpent. Donc vous voyez effectivement sur son dos déjà ses cheveux et ce vêtement. Vous en avez une illustration plus parlante ici encore, où vous voyez effectivement le vêtement d'écaille, donc qui signale déjà la nature serpentiforme. Je vais maintenant passer à une suite assez rapide d'illustrations de ces textes que j'ai évoqués tout à l'heure sous le nom de Yomihon, de ces livres illustrés. Donc là, on a le mari qui, effectivement, dans l'histoire de Kasane, essaie de tuer à coups de rame. Vous notez le graphisme très réussi en haut de la page avec le roux. On voit que la rame sort et donc assomme à coups de rame la pauvre Kasane qui n'en peut mais et qui se retrouve à la fois noyée et assommée. Une autre illustration du même texte, donc où on voit Kasane cette fois-ci indiquée sous son autre nom, donc avec une autre graphie. On voit que ce n'est pas forcément la femme la plus séduisante qui se puisse imaginer. On voit qu'elle brandit à son mari l'image d'un crapaud, lui signalant que c'est sans doute ce à quoi elle l'associe le plus immédiatement, et lui renvoie l'image. Vous voyez là encore son vêtement qui prend la forme d'un serpent et qui lui signale sa nature. Le mari essaie évidemment de s'enfuir, mais il réussit, je le rappelle, à se marier quand même 5 fois, donc ça doit marcher de temps en temps. Mais là, dans l'un des épisodes où ça ne marche pas, cette fois-ci, Kasane, vous notez que pour éviter même la malédiction, ceux qui connaissent le japonais, vous avez je vais me resservir du pointeur, le caractère donc qui est ici, ici le caractère qui veut dire rizière, le caractère qui veut dire fil, l'un ajouté à l'autre veut dire Kasane. Donc se superposer, en fait. C'est donc le nom du spectre, mais on a divisé en 2 caractères, c'est une sorte d'imikotoba pour éviter d'utiliser son nom. Et on lui accole le suffixe de Hime, puisque comme ça, Kasane Hime, princesse Kasane, qui donc poursuit effectivement, là encore, de sa vengeance, son mari. Une de ses assistantes ayant songé à l'aider, là encore, le mari qui apparemment a la rame facile essaie encore de commettre un meurtre pour éviter que les choses n'aillent plus loin, mais on voit que les cordages, cette fois-ci, sont possédés par l'esprit de Kasane et prennent la forme d'un serpent. On reste toujours, cette fois-ci, chez Kyokutei Bakin, dans un texte qui s'appelle, le Kanzen Tsuneyo Monogatari. Kanzen voulait dire où le bien est récompensé. Et l'artiste qui s'appelle Teisai Hokuba, qui a été aussi connu pour avoir été proche de Hokusai à certains moments, est connu surtout pour les images cruelles. Donc là, on a la deuxième image presque du paravent qu'on a vu tout à l'heure. On a vu tout à l'heure l'espèce de serpent démon qui scrutait au-dessus du paravent quand il passe de l'autre côté. Donc là, tel un vampire, il vient frapper et tuer le mari. Toujours dans Kanzen Sunio Monogatari, un autre mari volage, lui, retrouve sa fin de manière plus immédiate, puisque sa femme, cette fois-ci, est devenue un serpent, on le voit de manière très nette, et l'étrangle et l'asphyxie. On revient à des grands textes qui ont été de nombreuses fois adaptés sur la scène du Kabuki, Sakura Hime Zenden Akebono no Soshi, donc la légende de la princesse Sakura. Et on voit que là encore, en fait, l'une des maîtresses par rapport à la femme régulière, vous avez un koto, un instrument, et donc la personne qui vient de jouer du koto, en fait, les cordes du koto sont un serpent, prennent la forme d'un serpent qui va pointer vers sa rivale. La pauvre Sakura Hime, qui n'a pas de chance, est affligée dans ses rêves aussi par la présence, en fait, non seulement d'un religieux un peu défroqué qui la poursuit de ses assiduités, mais aussi de femmes qui la détestent. Et donc, elle a des rêves où, effectivement, on voit des serpents émanent de son corps et vont vers celui-ci. J'insiste sur la grande qualité graphique, là encore, de ces illustrations. On a encore la même scène. Donc là, cette fois-ci, c'est une scène de meurtre. Il faut savoir que plusieurs de ces héroïnes arrivent à mourir plusieurs fois dans les ouvrages, puisque se réincarnant, ça permet à l'auteur de les faire ainsi mourir un certain nombre de fois, et pour la plus grande joie de son lecteur. Donc là, on a effectivement le mari qui tue une femme et on voit que les cheveux, c'est un thème que j'aurais voulu illustrer plus amplement aujourd'hui, les cheveux de cette femme sont des pointes, là encore, sous la forme de serpent, un peu comme une chevelure de méduse, vers la rivale qui a inspiré cet acte criminel. Tout a une fin, heureuse ou parfois malheureuse. Finalement, donc dans Sakura Hime, on voit que le moine réussit à exorciser donc le spectre, donc ce spectre de féminin, et on voit que le petit serpent, vous le notez, en fait, désormais monte vers le ciel, si ce n'est le ciel pur des idées, en tout cas vers un ciel plus joyeux, en ayant un rayonnement qui montre à quel point il est désormais délivré de sa pauvre condition de serpent. Il a bien servi, en tout cas dans le texte. Je reviens sur l'illustration qui, je l'ai vu tout à l'heure, annonçait ma conférence. Vous notez encore une version donc de ce vêtement Urokogata, et ce vêtement Urokogata, donc vous voyez très bien la ceinture en fait qui donne l'aspect d'un serpent à cette héroïne qui est l'héroïne démoniaque, et vous notez qu'elle a le visage en fait de sa rivale, donc effectivement elle a une nature ophidienne, mais encore dans le miroir, dans certaines des éditions on peut voir dans ce miroir la figure de la rivale. Ces visions donc de la femme serpent, dotée de singuliers pouvoirs de terreur que seule pouvait apaiser, sinon détruire, les vieilles techniques de déconstruction sous forme de cadavres, habitent également les récits de fiction de plusieurs grands écrivains modernes. Ainsi qu'Oda Rohan, qui meurt en 1947, Izumi Kiyoka, qui est l'un des plus grands écrivains fantastiques japonais, qui meurt en 1939, ou l'écrivain qui par excellence s'y connaissait en matière de femmes et avait succombé souvent à leur prestige tout en mesurant le danger qu'il y avait à agir ainsi, Tanizaki Junichiro, qui meurt en 1965. Elles sont encore omniprésentes, et là je pense que Brigitte Koyama-Richard vous en parlera, dans les formes les plus populaires du cinéma et des mangas. Il semble qu'en la matière, en cette matière qui associe, on le voit, l'imagerie populaire et la religion, écrivains et artistes aient inconsciemment fait leur les mots du réalisateur américain Brian De Palma, né en 1940, qui affirme « Ce n'est pas que je veuille découper des femmes, mais ça semble marcher auprès du public. » Comparaison n'est pas raison, et sans doute y a-t-il loin entre les anciennes doctrines de l'ascétisme bouddhique et les formes les plus modernes de l'érotisme japonais. Mais les intuitions toujours neuves et agissantes de Georges Bataille, qui insiste sur les liens étroits entre ascétisme et érotisme, s'avère particulièrement pertinente si l'on songe aux associations faites par les textes et les images japonais. Je tiens à disposition d'une partie du public pour ceux d'entre vous qui voudraient les sources japonaises à partir desquelles j'ai établi ma conférence d'aujourd'hui. Vous verrez qu'il y a une référence à des manuels de composition de haïku dans lequel, si vous cherchez par exemple la femme, vous allez trouver vengeance, jalousie, serpent. Si vous cherchez à maîtresse, vous allez trouver meurtre, vous allez trouver ceinture, serpent. Donc même lorsque les gens composaient, ce genre de texte en fait fonctionnait très bien, et cette association entre la femme, le serpent et la vengeance était très nette. Je reviens à une illustration d'encore de ce texte qu'on a vu tout à l'heure, donc Shimoyo no Hoshi, en fait c'est donc les étoiles dans une nuit de givre, histoire de fantôme récente, Kinsei. C'est une des scènes qu'on retrouve aussi dans Yotsuya Kaidan, c'est-à-dire le mari est avec sa maîtresse, sans doute pour passer un moment qu'il espère agréable. Tout d'un coup, possédé par une vision, le visage de sa maîtresse lui apparaît comme le visage de son ancienne femme, qu'il a généralement tuée de la manière la plus horrible. Et donc, par confusion compréhensible des genres, il prend son épée, tue la personne qu'il a en face de lui en pensant qu'il tue une seconde fois sa première femme, mais en fait, il tue sa maîtresse. Vous voyez qu'il est possédé par en fait cet esprit féminin, et vous notez que le démon féminin, là aussi la prolongation avec le vêtement et le serpent en fait que vous voyez très nettement sur l'illustration. Par ailleurs, l'épée masculine prise dans la bouche du spectre féminin, je m'en tiendrai à ce que disait Freud, parfois un cigare n'est qu'un cigare. Un autre texte de l'époque, Mukashigatari Inazuma Byoshi, ou Inazuma Hyoshi, 1806, nous montre une des héroïnes dont vous voyez que les bras se prolongent par des serpents, donc qui semble indiquer, là encore, que ce personnage a une nature ophidienne et aura fonction à se venger. Il faut savoir que ce genre de texte ou de livre illustré comportait toujours une dizaine de premières pages, qui n'étaient pas vraiment un frontispice puisqu'il y en avait plusieurs, mais une dizaine d'illustrations qui expliquaient déjà l'intrigue en ouverture du livre. Donc ça fait partie de ces images. Et alors on nous dit qu'effectivement la voix du faisan est encore plus terrifiante lorsqu'un serpent le dévore, pour ceux d'entre vous qui lisent le... Alors on a un autre personnage, cette fois-ci plus placide, hein, d'ailleurs en fait le personnage Namu-Emon hein, lui montre qu'il a déjà une vertu bouddhique, donc il voit passer une tête de femme avec une longue chevelure de serpent alors qu'il porte sa hotte et se promène, on croirait presque une caricature de Daumier, et il a l'air assez peu affecté par cette apparition. On voit ici dans encore une illustration, parce que c'est Hokusai et parce que c'est une illustration de haute qualité, donc la scène, le mari a réussi à tuer sa femme, il est donc avec sa maîtresse qui ne va plus le devenir, il a tendance à... Donc il se remarie, ce sont des choses qui se font, et il est donc avec elle le soir de ses noces, mais apparaît sur ce qu'on appelle en fait l'engawa en japonais, alors qu'on traduit très mal par véranda, le serpent qui symbolise sa femme. Quant à son sganarel de valet qui est derrière et qui, lui, en fait, est un peu banni de liesse, mais qui quand même surveille l'action, la ceinture, là aussi, prend la forme d'un serpent pour lui signifier que lui aussi est une mauvaise personne. Un peu à la manière des capacités du comte Dracula, pour ceux qui sont fanatiques de films fantastiques ou du roman de Stoker, la forme du serpent, donc le S de serpent, peut aussi prendre la forme d'une nuée de rats que la femme va envoyer sur sa rivale. Alors la leçon bouddhique, on est toujours dans ce même texte, dans ces pages d'illustration. Alors le texte japonais dit « Gaikotsu no ue o yosote hanami kana ». Donc vous verrez que vous avez l'illustration d'une belle courtisane. Donc sous-entendu, ceux qui sont en train de faire le hanami hein, au japonais, comme vous le savez, c'est cette pratique très populaire d'ailleurs en ce moment même, où on se met sous les cerisiers avec une nappe et où on consomme force, boisson forte en admirant les fragilités de la nature. Néanmoins, donc cette courtisane qui est très jolie, on se rend compte que derrière, il y a, vous voyez l'analogie avec l'image de la Santa Caridad tout à l'heure, il y a derrière le crâne, le memento mori qui dit ce que l'on prend en fait pour... ce ne sont uniquement que des cadavres peints, que des cadavres fardés hein, qui sont en train de se livrer à leur libation sous les cerisiers. Alors effectivement, cette image de la femme serpent revient dans le cinéma des années 70. Alors là, j'ai pris Byakuza Komachi, hein, la jolie fille serpent blanc, où on mêle effectivement, puisque le serpent est aussi un des grands classiques des numéros de striptease, donc on mêle cette fois-ci un vieux fond d'image bouddhique, sans doute un peu d'érotisme 70s ou 60s au Japon, et cette figure de l'héroïne féminine qui là aussi est possédée par un serpent. On le voit donc pour en conclusion... Le bouddhisme, de concert avec la morale laïque et quelque peu rigide du néo-confucianisme, semble réaffirmer les lénifiantes et utiles vertus de la fidélité conjugale. Mais l'association pluriséculaire entre la femme et le serpent est aussi une invitation à penser nos peurs et nos rêves, nos désirs et nos craintes, nos terreurs et nos espoirs. Elle a cristallisé en une image le pathos d'une époque et ne cesse depuis au Japon, et dans une mesure différente en Chine, de faire naître d'autres œuvres, d'engendrer de nouveaux récits. L'énigme de la fascination qui naît de ces images ne cesse d'interroger lecteurs et spectateurs. Je terminerai par une référence, puisque c'est la campagne électorale aux États-Unis. Hillary Clinton s'est exprimée deux fois sur un sujet assez proche d'aujourd'hui. La première fois, elle a dit qu'elle n'était pas aux côtés de son mari et qu'elle n'était pas comme la chanteuse de country Tammy Wynette que vous voyez ici, dont le refrain le plus connu est « Sometimes it's hard to be a woman ». Donc effectivement, c'est aussi une leçon que l'on pourrait pratiquement tirer de ces images bouddhiques « Onna wa tsuraiyo ». Donc finalement, Hillary y avait déjà pensé à cette époque. Elle avait aussi laissé cette phrase que l'on cite moins et qui est que dans un mariage, les deux personnes qui comptent, ce sont celles qui sont dedans. Pour terminer, je terminerai avec une citation d'Ernst Jünger dans son premier journal parisien en date du 12 juillet 1942. « Avec une femme, dans une boutique où l'on pouvait acheter des serpents comestibles, le vendeur ouvrait un tiroir et il plongeait tranquillement la main pour présenter ensuite les animaux qu'il tenait par le milieu du corps. » Avant de les rendre à l'acheteur, il leur mettait une petite muselière d'où les courtes cornes des vipères jaillissaient comme des antennes frémissantes. Nous avons payé pour un échantillon de taille moyenne 12 à 14 marks. À mon réveil, je me suis creusé la tête pour savoir qui pouvait bien être cette femme. Les apparitions de ce genre nous sont confusément familières. Parfois, plusieurs êtres, tels que sœurs, femmes et mères, se trouvent rassemblés en elles comme sous un voile. La substance originelle de la féminité. Nous nous pressentons dans la trame aveugle, mais nous ne nous connaissons pas. Je vous remercie.
Si vous avez des questions, nous tenons des micros à votre disposition.
Merci, excusez mon ignorance. Le meurtre d'une épouse était-il une affaire privée, ce qui explique tout ce délire? Ou est-ce qu'il y avait une justice, ou une justice familiale, etc. Enfin, ou est-ce qu'il n'y avait rien à faire? Qu'effectivement, redevenir un fantôme et régler ses comptes?
Oui, présenté comme ça, la chose est dite un peu de manière directe, mais vous avez raison. Enfin, il y avait effectivement des lois au Japon. Le crime qui pouvait être puni de mort était évidemment l'adultère dans la société d'Edo, à moins que l'on se réfugie dans certains temples qui permettaient un peu un divorce automatique, comme aujourd'hui on dit aller à Reno aux États-Unis, donc qui a la présence, l'entrée dans l'enceinte de ce temple permettait effectivement de divorcer. Mais le meurtre, oui, était puni, en fait, ou passible de punition et même de châtiment sévère. Ceci dit, ce n'était pas une pratique courante. La pratique courante était souvent, étant donné le fonctionnement social de l'époque, que le mari japonais avait parfaitement le droit d'avoir une maîtresse, a fortiori s'il n'avait pas d'héritier mâle, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et on avait quelque chose qui n'est pas mentionné, il y avait un système qui s'appelait Linkiko. Hein, donc, Linki voulant dire, en fait, c'est une sorte de confrérie. Donc c'est des confréries de femmes envieuses ou jalouses. Et qui, donc c'était une sorte de rassemblement nocturne de femmes jalouses, bafouées et envieuses. Ces sortes de desperate housewives de l'époque. Composé d'épouses légitimes, de régulières, pour parler comme Albert Simonin, c'est-à-dire de premières femmes à la lumière vacillante des chandelles, faute de pouvoir demander le divorce elle-même dans certains cas. Le but de ce genre de réunion, façon meeting et qui n'avait rien à voir avec le meurtre, était de calomnier et surtout de maudire son propre mari et ses amantes supposées. Donc il y avait des formes d'exutoire social qui étaient prévues. La survie de telles pratiques dans le Japon contemporain, par exemple dans les Nihon Jinkai, serait aussi un sujet intéressant, mais alors là, c'est vraiment très difficile à traiter. Ceci dit, le meurtre lui-même était bien sûr passible de sévères châtiments par la loi. Sans doute plus dans un sens que dans un autre. D'où ce type d'expression, effectivement, qui donnait corps aux ressentiments et aux peurs et aux phobies sociales d'une époque.
Je vous remercie pour votre exposé. En fait, vous nous avez proposé de nous donner vos références bibliographiques. Où est-ce qu'on peut les
en avoir la liste? Je tiens une cinquantaine d'exemplaires des documents qui m'ont servi, des documents, donc des sources, leurs références précises, ainsi qu'une bibliographie en langue occidentale à disposition de ceux qui la voudront. N'en ayant qu'une cinquantaine d'exemplaires, je me propose en fait soit de la mettre sur le site de l'EFEO en ligne, ce qui permettra à ceux d'entre vous qui n'auront pas eu le document d'y accéder, de le voir. Et sinon, vous aurez en fait dans cette liste effectivement la plupart des documents précis. Il y a aussi une liste de vocabulaire et des équivalents français, en fait, des notions japonaises qui ont été abordées dans l'exposé d'aujourd'hui.
Merci beaucoup.
Bon, apparemment, je pense qu'il n'y a plus de questions. Donc, on va remercier encore une fois François Lachaud pour cette très belle conférence. Merci encore.